Les As de la CoPro, la question du copropriétaire.
Bonjour, alors moi je suis copropriétaire à Angers et j'ai une question concernant le PV de l'Assemblée Générale. Si celui-ci n'a pas été signé, est-ce que mon syndic peut le notifier? Est-il valable? Et enfin, quels sont les risques et les conséquences? Et j'ai une autre question concernant l'erratum du PV d'AG. Est-il possible de diffuser un erratum? Est-ce dangereux? Et enfin, qu'est-ce que cela engendre?
Ok, alors donc il y a plusieurs petites questions. On est sur le PV d'Assemblée Générale. La première question, c'est le PV n'est pas signé par le président, le scrutateur. Que doit faire le syndic? Est-ce qu'il peut quand même le diffuser? Déjà, quelle est la valeur de la signature? Et peut-on quand même, le syndic, peut-il quand même le notifier? Ça, c'est la première question et je reviendrai après sur l'erratum. Sabrina, la signature, le PV n'est pas signé, on fait quoi?
Alors, le PV n'est pas signé, ce qui peut arriver, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même 8 jours pour faire signer le procès-verbal de l'Assemblée Générale. Donc, ce dernier n'est pas signé par le président de séance. Dans ces conditions, le syndic se doit, il a un délai d'un mois pour notifier à tous les copropriétaires le procès-verbal d'Assemblée Générale, il se doit de le notifier aux copropriétaires et de faire courir le délai de contestation, qui est de 2 mois. Donc, dans ces conditions, on le notifie.
Donc on le notifie, même s'il n'est pas signé, oui. Et même si le président de séance dit « je ne veux pas le signer parce que
oui.
Hein, la séance est levée, il y a un PV, on doit le diffuser au bout d'un mois ». Quoi qu'il en coûte,
alors, pour reprendre. Rappelons quand même que le syndic est généralement le secrétaire de séance, donc il va quand même certifier ce procès-verbal. Bien évidemment, la signature au moins du président de séance est nécessaire. Charge, effectivement, dans le délai de contestation, le copropriétaire qui souhaite contester le procès-verbal, charge à lui de mener une action auprès du tribunal judiciaire et d'en contester la validité et de le prouver.
Parce que justement, la signature, force probante, force de validité, que nous dit la jurisprudence sur la valeur de la signature? Est-ce qu'un PV non signé est valable quand même?
Oui.
Il est valable. Donc on est vraiment sur la force probante.
Probante, tout à fait.
C'est pas parce que le procès-verbal n'est pas signé que l'Assemblée générale ne s'est pas réunie, qu'elle n'a pas délibéré sur une résolution et que cette résolution n'a pas été adoptée. La rédaction du procès-verbal et la signature par le président et les scrutateurs, le secrétaire, a pour objectif d'avoir un document avec force probante sur la manière dont la gestion
est
les décisions prises.
Moi, je le fais. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que le syndic va quand même mettre un petit cachet certifié conforme à l'original?
Alors,
pour lui donner un petit peu plus le style d'un PV signé,
je ne sais pas s'il faut mettre certifié conforme à l'original. Je pense que si un des membres du bureau refuse de signer, ça a du sens si le syndic explique la situation. Pourquoi ce refus? Est-ce que c'est parce que une décision n'a pas plu à l'un des membres du bureau? Ça arrive. Hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, si effectivement le procès-verbal est le parfait reflet de l'Assemblée générale des votes, des résolutions qui ont été prises, l'Assemblée générale s'est tenue, elle a décidé de manière valable, et donc ce procès-verbal doit être diffusé. Je crois, alors la jurisprudence va en ce sens-là, je connais pas exactement les dates des décisions, mais elle va de manière assez ferme dans ce sens-là. Elle dit simplement que la force probante du procès-verbal est réduite quand tout le monde ne signe pas, évidemment. Hein. Et elle dit aussi, il me semble que s'il n'y a aucune signature sur un procès-verbal, alors là, il n'y a plus du tout de force probante. Et pour le coup, ce procès-verbal ne vaut rien.
Très, très fragile.
Mais on a tous connu des cas où un membre du bureau, que ce soit le président ou un scrutateur, parce que, en général, une décision ne lui convient pas, ou parce qu'il estime, mais c'est le seul à estimer que ça n'a pas été fait dans les règles, refuse de signer le procès-verbal. C'est pas pour ça que la décision n'est pas prise. C'est pas pour ça que l'AG.
Donc on doit notifier quand même.
Et on doit notifier.
Alors moi personnellement, c'est pour ça aussi que, pour des raisons pratiques, je fais signer le procès-verbal immédiatement à la fin de la séance. Et d'ailleurs, le délai de 8 jours, c'est nouveau depuis la loi Elan.
Oui.
Auparavant, il fallait faire signer le PV immédiatement à la fin de l'assemblée, ce qui était bien pratique. Et moi, personnellement, je continue de le faire signer tout de suite. Quitte à leur dire, prenez votre temps pour relire si vous voulez, mais au moins c'est signé, c'est fait, j'ai pas envie de courir après. Sur la pratique de l'erratum, c'est la deuxième question, Alexis. On le voit de temps en temps, le PV est diffusé. Le PV est diffusé, ça y est, il est notifié. On dit notifié aux opposants, aux défaillants, et par lettre simple, conformément aux bonnes pratiques, à l'ensemble des copropriétaires. Il est diffusé, et là, quelqu'un se réveille en disant « Vous m'avez mal compté dans les voix, j'avais voté contre, vous m'avez mis dans les pour, par exemple, je veux, j'exige que… » Et il a raison, à la limite, peu importe qu'il ait raison. Enfin, on va voir, vous allez développer. Merci de diffuser un erratum. Ça se fait. Est-ce que c'est... Bon, déjà, est-ce que c'est prévu par la loi ? Je ne crois pas. Je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu ce mot-là. Mais est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que... Quels sont les risques ?
Ah bah, y a des... Alors, attention, danger. C'est-à-dire que parfois, effectivement, c'est nécessaire et voire indispensable d'opérer cette modification. Alors, parfois, on parle d'omission ou d'erreur matérielle. Mais c'est vrai qu'on a des cas de jurisprudence qui considèrent que... un syndic, sous couvert même de rectification d'une erreur matérielle pour réparer une omission, n'a pas la qualité de le faire. C'est-à-dire que c'est une prérogative de l'Assemblée générale. Donc parfois, c'est toujours pareil, hein, ce sera du cas par cas. C'est important puisqu'on peut avoir tous les cas de figure, hein, tous les cas d'erreur, tous les cas d'omission, en faveur ou en défaveur d'une décision prise, hein, qui viennent à l'encontre d'une décision qui a été prise, par manque de tantième, ou on en a compté trop ou pas suffisamment. Donc ça peut être réalisé, mais la jurisprudence est quand même malgré tout, quand on regarde les quelques décisions, assez strictes sur ce sujet-là, et elle considère que ce que l'Assemblée fait, seule l'Assemblée générale peut défaire ou refaire, ou c'est-à-dire redécider une résolution. Donc ce sont des cas de figure très, très spécifiques.
Parce que moi, personnellement, quand quelqu'un me dit « je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ça qu'il fallait marquer », je lui dis « bon, vous contestez dans le délai de 2 mois, vous avez l'article 42, hein ». Pierre-Edouard, vous avez des cas de jurisprudence ? Erratum ou pas erratum ? Parce que, est-ce que ça fait partir et courir un deuxième délai de notification article 42, puisque c'est comme si on diffusait un deuxième PV, un additif au PV, un nouveau PV.
Je crois qu'il faut observer la modification qui est portée au procès-verbal. S'il s'agit d'une modification purement matérielle, qui ne concerne même pas le sens d'un vote, c'est-à-dire un moment quand préciser de manière plus claire le prix de l'entreprise qui a été choisie, mais sans qu'il y ait une modification de la résolution qui est adoptée, ni sur le fond, ni sur la forme. Au fond, c'est vraiment une erreur de plume. Je ne suis pas sûr que ça fasse courir un deuxième délai, parce qu'il n'y a pas de modification. Par contre, évidemment, si on change le sens d'un vote qui emporte un changement de décision, là oui, ça fait nécessairement courir un nouveau délai. Parce que dans la première notification, le copropriétaire n'avait même pas idée de contester, puisque il pouvait ne pas avoir la qualité d'opposant. Tandis que dans la deuxième notification, sa qualité va changer. Et là, bien sûr, on comprend que...
Mais alors, du coup, c'est risqué de le faire.
C'est risqué, dans ce cas-là, de le faire. Mais en même temps, c'est rétablir la situation normale de ce qu'aurait dû être la décision dans le premier PV. Et la jurisprudence...
On demande l'accord au président de séance.
Absolument, nous dit qu'on peut tout à fait procéder à cette correction, à condition de saisir le bureau, et que le bureau valide cette modification, c'est-à-dire que, en fait, le bureau avalise en disant « oui, c'est vrai, cette personne-là, au jour de l'Assemblée générale, a bien voté en ce sens, et donc nous corrigeons », et même si ça a une incidence sur le résultat du vote. Et la Cour de cassation a même accepté qu'on puisse saisir un juge pour faire constater la décision adoptée ou non, en fonction de voix qui n'auraient pas été inscrites au PV de l'Assemblée générale. Parce que c'est une rectification, non pas là, substantielle, mais matérielle. Néanmoins, même si elle n'est que matérielle, elle a une incidence substantielle qui doit permettre de faire courir un nouveau délai, puisque les qualités d'opposants, pas défaillants, parce qu'eux ne changent pas, mais en tout cas d'opposants, vont changer en fonction du sens de la décision. Donc il faut être attentif, c'est un peu au cas par cas, je pense. Et c'est pour ça que la pratique est peut-être un peu risquée. Mais il faut corriger lorsqu'il y a une erreur, matériel. Si c'est une erreur substantielle, plus délicat. Parce que, alors c'est même non, il ne faut pas modifier, il ne faut pas corriger. Parce que, on en parlait tout à l'heure hors antenne, en s'échauffant. La question, c'est on a voté pendant l'Assemblée Générale une question qui n'était pas à l'ordre du jour. Ah, c'est pas bien. On le sait, ça, c'est une cause de nullité. Et ça ne fait aucun pli, si on peut parler de la sorte, si on va au contentieux. Mais on pourrait être tenté alors de dire « Ah bah oui, finalement, on a peut-être fait une erreur, on va supprimer cette question qu'on a votée et qu'on a approuvée alors qu'elle n'était pas inscrite à l'ordre du jour et on va notifier un nouveau PV. » Ah oui, mais là, c'est substantiel. Parce que l'Assemblée Générale a bien voté cette décision. elle a mal voté, elle n'aurait pas dû le faire, mais là, la sanction doit être judiciaire et il faut contester et il ne faut pas corriger.
Alors là, on retranche, des fois on ajoute, on modifie, on demande au bureau, pas au bureau, erreur matérielle, erreur de plume, erreur formelle. C'est vrai que c'est quand même un peu confus. Moi, personnellement, je préfère éviter tout court la pratique de l'erratum en disant qu'au propriétaire, vous avez 2 mois pour contester ou alors on reconvoque une AG.
Reconvoquer une AG, c'est pas la même chose que de constater un vote qui a eu lieu. Si on s'est
trompé
dans les décomptes des voix, le vote a eu lieu, on s'est trompé dans le décompte des voix, on se doit de rétablir la réalité des votes. Convoquer une nouvelle assemblée générale, ça va remettre le débat en place. Peut-être que des copropriétaires voteront différemment. Finalement, un copropriétaire qui attendait la décision peut s'estimer lésé par le fait qu'on ait reconvoqué l'Assemblée Générale. Donc, moi, je rejoins complètement Pierre-Edouard. L'erratum doit être fait. C'est une obligation s'il s'agit de modifier une erreur, non pas substantielle, mais matérielle.
Et en tout cas, demander
de rétablir la réalité.
Et en tout cas, c'est ça qu'on retiendra, demander évidemment l'accord, la validation du bureau de séance, c'est-à-dire le président et le ou les scrutateurs.
Qui va constater la réalité de cette erreur et qui va constater le besoin de corriger et donc de publier, de notifier un erratum.
Et demander éventuellement même au copropriétaire qui demande de cet erratum de nous faire une attestation, une demande en bonne et due forme. Hein, bien sûr, mais ça c'est le minimum.
Les As de la Copro sur Radio Immo.